Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Om Ahong. Depuis hier, une journée intense, la question de Jinpa de Valence a fait le buzz, comment dire, et j'ai été même l'objet de menaces de femmes qui m'ont menacé de venir manifester ici même si on ne reprenait pas quelques explications pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet. Donc, j'ai aussi invité pour m'aider un invité spécial, Gérard, qui est professeur de psychologie aujourd'hui à la retraite, mais qui pourra nous éclairer sur certains aspects psychologiques. Donc, je reprends pour ceux qui étaient qui ont loupé un épisode éventuellement. Hier, Jinpa de Valence, en Espagne. De Valence, de Valencia. Citer cette parole d'un imam qui a défrayé la chronique en Espagne. Sa question était double sur la remarque de l'imam qui semblait assez impertinente et sur le relayage d'une telle parole et l'effet de buzz de la part des médias en général. Et la question, enfin, ce que cet imam avait dit, j'essaye de reconstituer, vous me corrigerez, je parle sous votre contrôle. Et il faisait remarquer que des femmes se parfumaient dans des pensées de séduction et de fornication.
C'était des provocatrices et des fornicatrices.
Donc, de séduction provocatrice avec des visées fornicatrices. Donc, Jinpa, on était sur vous pensez de cette parole et de son relais par les médias. Alors, après une discussion, j'avais fait remarquer que cette parole de l'imam était certainement assez maladroite, déplacée et d'une certaine façon aussi même insultante. Mais en même temps, je faisais remarquer un certain nombre d'éléments pertinents de cette remarque, qui est la dynamique psychologique et pas que, qui sensorielle, sensuelle, et qui peut aller jusqu'à sexuelle, d'une relation qui se trame dans l'odeur et l'odorat, et avec la puissance évocatrice de l'odorat, et donc il y a les odeurs naturelles et certaines ont des rôles physiologiques extrêmement forts. Il y a aussi des parfums que l'on peut utiliser. On me faisait remarquer que le Bouddha... Alors, on m'a dit que le Bouddha se parfumait au bois de santal. Non, le Bouddha ne se parfumait pas vraiment au bois de santal. Le Bouddha avait naturellement une fragrance de bois de santal. Qui est connue pour être l'odeur de sainteté, l'odeur de la pureté. Il exhalait naturellement ce parfum de santal. Voilà. Alors, amenait une atmosphère de pureté et d'inspiration. Non, en tout cas, c'est un exemple du pouvoir inspirateur, évocateur des odeurs et des parfums. Et alors, différentes atmosphères peuvent venir indubitablement de différents parfums. Et nous avions aussi évoqué les parfums naturels que sont certaines fois chez les mammifères des appels même à la reproduction. Alors, on me citait les chats, les phéromones. Elle a des hormones olfactives et les humains émanent des hormones naturelles. Vous croyez que les achète chez le pharmacien? Alors, peut-être, oui, dans des parfums. Est-ce qu'il y a des parfums aux hormones?
Non, les phéromones, ce sont des hormones olfactives et qui...
prenez le micro, s'il vous plaît, parce qu'autrement, on ne vous entend pas bien.
Les phéromones sont des hormones olfactives qui provoquent, qui induisent un comportement automatique chez l'animal et pratiquement chez l'humain aussi.
Voilà.
Mais avec des quantités extrêmement infimes. Oui. C'est-à-dire un 10 millionième de partie arrive à déclencher le comportement de l'animal directement. Et chez les humains, il y a aussi des phéromones dans la séduction, par exemple, c'est évident. Napoléon disait aussi à Marie-Louise, ne te lave pas, j'arrive.
Ne te lave pas.
J'arrive.
J'arrive et je citais hier le bon roi Henri qui, quand il revenait, disait « Mamie de grâce, ne vous lavez pas ».
Et il y a un très beau roman qui s'appelle « Le parfum ».
Oui.
Qui traduit en effet l'existence de ces phéromones et toute l'activité de cet homme qui est quand même assez particulier, qui est de tuer des femmes pour essayer de dégager, de trouver le parfum qui permet d'induire un comportement chez les humains.
Ah,
c'est un film magnifique, oui.
On n'a pas vu.
Un roman extrêmement...
Dans le parfum fatal, enfin le parfum...
Oui.
qui serait vraiment le filtre de séduction.
Filtre d'amour, oui.
Le filtre d'amour.
Voilà, exactement.
Dans un parfum, et ça l'a conduit dans les pires excès, alors.
Oui. À la fin, il est condamné à mort, et donc on va l'amener sur en place de grève, l'équivalent de la place de grève. Et à ce moment-là, il sort un mouchoir avec un parfum qu'il a composé. Et à ce moment-là, toute l'assemblée se met à faire l'amour. Et lui s'en va tranquillement.
Ah, alors ça, ça c'est un happy end.
Mais ce n'est pas un happy end parce qu'après, il retourne là où il était né. Sa mère était une poissonnière, et en fait, il avait, sa mère avait accouché directement, je veux dire, en vendant du poisson. Le bébé avait crié, et les gens s'étaient rendus compte que ce bébé était né donc, de cette femme, qui ne s'était pas occupée de son enfant. Et à ce moment-là, cette femme avait été condamnée à mort. Mmh. Et il revient donc sur les lieux où il est né, et il a constitué un parfum qui fait que les malotrus, je veux dire, viennent et le tuent. Et il accepte de tuer aussi.
Donc il avait cette maîtrise des parfums.
Voilà. Mais... ouais. Des phéromones, oui.
Mais aussi bien pour l'amour que pour
aussi
la
bien pour la pulsion de vie que pour la pulsion
de
mort. Voilà, exactement, oui.
Bon. Donc ça, c'est un bel exemple du pouvoir des parfums.
Des parfums, oui.
Et l'exemple qu'on me citait, alors là, qui est un exemple animal, ce sont les chats. Et il paraît qu'un chat peut sentir la chatte en chaleur, alors, on dit à plusieurs kilomètres, je ne sais pas, ça me semble, mais en tout cas, de très très loin, de très très loin. Donc,
il y a aussi les parfums répulsifs, comme le putois ou qui lâche.
Eh oui, les parfums.
Quand il est en colère ou qu'il veut chasser un ennemi, il lâche une bulle puante.
Et ça marche aussi.
Ça marche aussi.
Donc, de l'usage et de la force des parfums. Et donc, après, c'est là où ça devient polémique. C'est que certaines femmes, au dire de cet imam, sont suspectées d'utiliser des parfums à des fins provocatrices. Alors, je pense que dans, si on fait l'analyse psychologique de se dire, il faudrait surtout se pencher sur la personnalité de l'imam. Sur la personnalité de l'imam et sur sa vie personnelle. Mais alors, un parfum n'est pas nécessairement provocateur. Exemple, le parfum de Santal du Bouddha qui est même apaisant. Mais il est vrai que des parfums peuvent être provocateurs et inducteurs. Hein, et tout ce qui vient d'être dit en est une belle démonstration ou un bel exemple. Alors, de là à suspecter des femmes intentionnellement de faire des provocations ainsi à viser fornicatrices. Il n'y a qu'un pas, il est grand. Qui n'est certainement pas fait par toutes, mais on peut imaginer qu'ils pourraient être des femmes ou des hommes, parce que j'avais fait le parallèle homme-femme, et Gérard me faisait remarquer, d'une façon générale, ce sont les hommes qui sont séducteurs.
Les femmes aussi.
Ah, les femmes aussi.
Les femmes aussi. La femme avec son bébé est une grande séductrice. Tous les soins de l'enfant, du bébé, au niveau de la toilette, provoquent chez certaines femmes, en effet, des orgasmes, quand elles veulent bien le reconnaître.
Des soins de leur enfant.
Des soins de leur enfant, bien sûr. Et il y a un jeu qui s'établit entre le bébé et sa mère dans un jeu de séduction. Et c'est ce qui permet, par exemple, l'apprentissage de la propreté se fait pour faire plaisir à la mère. Donc c'est abandonner quand même tout un plaisir anal pour un autre type de plaisir. Donc tous les problèmes de propreté au niveau des enfants sont liés à une mauvaise interaction entre la mère et l'enfant.
Voilà.
Et au début, la mère qui allait le bébé, à partir de deux ou trois jours, il est capable de reconnaître l'odeur du sein de sa mère. C'est-à-dire qu'on deux femmes qui sont en train d'allaiter un bébé, on prend un t-shirt, on le passe sur le sein de la mère et on le présente au bébé, un à droite et un à gauche, et le bébé reconnaît l'odeur de sa mère. Donc c'est ce qui provoque l'attachement entre la mère et le bébé. Et ça existe aussi chez les animaux, chez les chats, chez tous les mammifères. Je veux dire, il faut, quand ils vivent en collectivité, il faut que le bébé et la mère puissent se reconnaître, et donc le bébé reconnaît le pis de sa mère. Sinon, il meurt. Sinon, les mères veulent pas, notre mère ne veut pas l'accepter, sauf cas rarissime. Donc le lien au niveau de l'olfaction, il est très précoce.
Donc, pour clore sur ce sujet, alors il est sûr que la terminologie utilisée dans l'expression, fornication est un terme qui est chargé et qui dénote un certain jugement finalement. Mais au-delà du jugement, il y a simplement. Alors, il peut y avoir beaucoup de niveaux, mais il y a une dynamique de séduction qui peut être enclenchée ou déclenchée par des parfums. Bon. Je crois que c'est important de le comprendre, et surtout quand on est dans une voie de la sensorialité, et de la sensualité, du bon usage des sens. Et alors, autrement, il y a ici Chakrasamvara avec Dorje Pamo, qui sont dans une pratique d'union. Je n'ai pas fait mettre ce tanka là spécialement pour cette soirée. C'est c'est le tanka de la retraite et de la pratique que nous accomplissons actuellement, celle de Chakrasamvara. Mais dans la tradition du Vajrayana, l'union spirituelle est exprimée symboliquement sous la forme de l'union sexuelle. Et c'est une expression très forte, parce que la pulsion sexuelle est une pulsion fondamentale de notre économie psychologique et spirituelle. Et donc c'est un symbole puissant et qui est plein de sens. Mais dans la pratique, il est le rappel et l'entrée en l'union spirituelle, en l'union de non-dualité. Peut-être, comme je sais qu'il y a différentes autres questions, donner la parole à il y a Isabelle, il y a Gabrielle, s'il vous plaît.
Rinpoche, je vais me permettre juste d'ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. La polémique de ce qu'a dit cet imam, c'est surtout le fait que ça soit les femmes et qu'on ne parle pas des hommes et des femmes.
Ah.
Et c'est surtout ça aussi qui est... Pourquoi on ne parle pas des hommes qui se parfument
voilà. Moi, j'en ai parlé hier.
Hein. Oui, oui.
Je suis dédouané.
Et c'est vrai qu'il y a tout de même... nous sommes au XXIe siècle et il y a encore... la position de la femme, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et on parle aussi, dans, notamment pour les nonnes bouddhistes, il y a encore certaines écoles qui ne permettent pas aux nonnes d'avoir la consécration complète.
Oui, la consécration complète, en fait, c'est un certain nombre de vœux supplémentaires pour les femmes. Donc, d'une certaine façon, c'est une plus haute ordination. D'une autre façon, c'est les femmes ont besoin de certaines règles particulières qui sont afférentes à leur condition féminine. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que le Dalai Lama, sa santé, lui-même a proposé qu'il y ait une update au sujet des vœux monastiques. Bon, une mise à jour. S'il vous plaît.
La parole est à Gabriel.
Vous avez parlé des religions et des traditions, vous en avez reparlé hier. Et j'aimerais vous demander, Rinpoche, comment expliquez-vous que les papes, le dernier pape François, draine autant de jeunes qui sont allés en Amérique latine, des milliers, peut-être même millions, je ne sais plus.
3 millions.
De même que le pape, pardon, oui.
3 millions sur 3 la millions. Plage de voilà. Pana Cota.
Oui. De même que le
Copacabana.
Copacabana.
C'est un beau lapsus.
Et c'était la même chose pour le pape précédent lorsqu'il se déplaçait. Donc j'aimerais savoir comment vous expliquez ce phénomène alors que les jeunes d'aujourd'hui, en 2013, sont au courant des méfaits des religions, de tout ce qui s'est passé au Vatican. De toutes ces informations.
Je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait beaucoup de jeunes qui aient rencontré le pape. Parce que c'est... il est un symbole d'espoir, de vertu, de santé, indépendamment et nonobstant effectivement les histoires pédophiles, vaticanaises et tutti quanti, que ces jeunes ne connaissent même pas. Et puis c'est pas... globalement, il est important de relativiser. Et dans toutes les communautés unisexes, il y a de l'homosexualité. Après, pour ce qui est de la pédophilie, je rajouterai plus ou moins. Hein. Si on va par là, les Grecs... C'était culturel, on me dit. Oui, mais les autres, ils ont vite fait de vous dire, nous aussi, c'est culturel. Donc, bon, simplement pour des jeunes, alors, au Brésil, la situation aussi est terrible. Et là, François, qui est originaire de ces endroits et qui est connu... Pardon ? D'Argentine, mais d'Amérique du Sud, et qui est connu comme un Sud-Américain, qu'il ait ce pouvoir magnétique et surtout qu'il a eu un engagement réel et fort vis-à-vis des plus pauvres, qu'il ait un succès, une attirance, un pouvoir de séduction. Avec son parfum de santé, c'est, je dirais, assez naturel. Et dans la situation de désespoir, no hope, dans laquelle sont beaucoup de ces jeunes, beaucoup de ces jeunes, qui courent vers ainsi une image, bon, qui est chez eux en plus quand même culturellement forte, parce que l'Amérique du Sud a été évangélisée depuis longtemps. Donc, c'est comme ça que je l'explique. Je pense en plus que c'est somme toute une bonne chose. Mieux vaut et de beaucoup aller chanter avec le pape Alléluia que de se joindre à une bande dans une favela et devenir dealer et narco-dealer. Donc, c'est bien. Alors, François fait beaucoup mieux que Ratzinger, Jean 23, pardon, que Benoît XVI, oui. Et ce sont deux, c'est ce qui fait son succès aussi. Benoît XVI était le, en tant que cardinal Ratzinger, je l'avais rencontré, il était le, comment ça s'appelait, le gardien de l'orthodoxie.
C'est ça.
Ouais. La congrégation de la foi. Donc, c'était un petit peu spécial. Donc, François, lui, c'est beaucoup plus François d'Assise. Il est dans la nature, la générosité, les petits oiseaux. Et c'est très sympathique, c'est très frais. Alors, après, ça peut aussi effectivement dévier. Mais si on parle du christianisme, somme toute, de beaucoup mieux vaut les catholiques que les évangélistes. ces derniers, là, une espèce redoutable. Bon, je ne vais pas développer, mais quand on sait un certain nombre de fonctionnements, et ce sont des véritables sectes, là, au sens sectaire, et... voilà, fermons la parenthèse. est-ce qu'il y avait, Isabelle, d'autres questions qui étaient arrivées, s'il vous plaît?
Dans les questions d'hier, il y a une question de Renaud de Grenoble. Rinpoche, peut-on dire quelques mots au sujet des colibris, Pierre Rabhi, et des actions telles que l'accompagnement de la fin de vie, les visites dans les prisons, etc.
Colibri, fin de vie et prison. Ça ne veut pas dire que les membres de Colibri vont terminer leur vie en prison. Ils ne le méritent pas. Colibri est un mouvement qui a été initié par Pierre Rabhi, qui est le parrain de l'écocide et qui est notre pilote en termes d'écologie et d'agroécologie. J'en ai parlé l'autre jour en mentionnant Bastien, un de ses disciples qui pilote ici le projet agricole et qui nous nourrit de ces bons fruits et légumes que vous avez certainement appréciés pas plus tard que ce midi. Colibri, spécifiquement, est l'image d'un petit oiseau. Un colibri est un tout petit oiseau Et la forêt est en feu. Le monde est en feu. Et les gros oiseaux, les gros animaux s'en vont. Et le colibri, le petit colibri, va chercher un petit peu d'eau. Il vient tout petit jeter ses gouttes d'eau sur le feu. Et les gros oiseaux, les gros animaux, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas éteindre le feu avec tes petites gouttes. Mais... Et le colibri dit, oui, mais au moins je fais mon boulot. Chacun fait sa part. Voilà. Et donc, c'est l'exemple et la métaphore véhicule l'inspiration pour chacun de faire sa part. Et ce n'est pas parce qu'on est petit qu'il ne s'agit pas de faire sa part. Et il ne s'agit pas de se dire que l'on n'est pas capable ou que à quoi bon ce que je peux faire dans l'immensité du désastre. Eh bien si, ce que fait chacun peut faire la différence, et si chacun fait la différence en soi et chez soi, ça fera une différence générale et globale. Donne et colibri ainsi inspire des actions écologiques. Pour en savoir plus, regardez ou tapez sur Google colibri. Alors,
nous sommes un centre local du mouvement colibri et nous cherchons d'ailleurs un correspondant pour animer le groupe local Colibri d'Avallon. Donc voilà, avis à candidature parmi les résidents ou les proches.
Qu'est-ce qui se passe? Je voulais attraper la thermos. Je manque pas de souplesse. Mais j'ai l'arthrose de mon épaule droite qui m'a fait horriblement mal et qui m'a empêché. Et je ne pouvais plus utiliser mon bras droit pour remonter. Ouf. Merci beaucoup. Oui, donc nous cherchons un correspondant colibri. Donc... les volontaires approchent la Malundrup et il y a des actions colibri qui se passent ici en Avallon, dans l'écosite. Donc, welcome. Il y a d'ailleurs tout un plan de travaux sur l'écosite, travaux colibri et aussi travaux mammouth. Il y en a pour tous. Et dans, là aussi, la Malundrup peut recueillir les motivations. Il y a aussi Lodreux, Sophie Lodreux, qui vous pouvez venir proposer vos services en dana colibri, en dana mammouth pour l'écosite, s'il vous plaît. Alors ensuite, dire quelques mots de l'accompagnement de la fin de vie. L'accompagnement de la fin de vie est important parce que nous arrivons tous en fin de vie. Quelques nuances près. Il y en a qui vont dire, nous on est en début de vie. Mais bon. En tout cas, même la vie qui a un début a vite une fin. Donc, en bref, nous sommes tous concernés. Et l'accompagnement de la fin de vie commence par l'accompagnement de la vie. Et c'est pourquoi le Malindrup, dans l'université, a développé tout un institut de vie humaniste qui... Pardon ?
Vous en parlez déjà au passé composé, alors que ce n'est pas encore, c'est pas encore existant. Il a déjà développé.
C'est tout. Et si. Alors, il n'est pas constitué dans toute son ampleur, parce qu'il y a toutes les étapes de la vie, depuis la conception, la gestation, la naissance, la première enfance, la deuxième enfance, troisième, l'adolescence, l'âge adulte, le mariage, les épreuves de la vie, les crises, les transitions, les séparations, toutes les étapes de la vie et jusque aussi à la fin de vie. Et en fait, on a commencé par la fin de vie parce que c'est là où il y avait le plus de demandes. Et donc, depuis maintenant une vingtaine d'années, il s'est développé ici un programme d'accompagnement de la fin de vie avec différentes sessions. Il y a une session pour tout le monde. Comment aborder, comment bien aborder la fin de vie avec tout ce que cela comprend. Au niveau personnel, au niveau relationnel, son testament, et ses indications médicales, plein de choses. Et aussi comment aborder la fin de vie dans le moment de la mort. Et comment s'y préparer et comment bien faire à ce moment-là. Et donc, toutes sortes d'instructions et d'entraînements qui sont très importants, très libérateurs et qui sont aussi des remèdes à un problème de société contemporain, qui est le déni de la mort. Et il y a aussi une formation pour le personnel soignant sur comment accompagner. Dans la pratique personnelle, il y a aussi comment accompagner, parce que nous sommes tous amenés à accompagner de nos proches, où il serait bien tous que nous puissions bien accompagner nos proches lorsqu'ils s'en vont, et cela nous arrive à tous. C'est là un aspect très important aussi de l'engagement, de bouddhistes engagés dans la vie. Et beaucoup de membres de la communauté sont actifs dans des associations d'accompagnement, justement, Jalma, Albatros et d'autres. Et nous avons aussi, et particulièrement dans le projet Avalon Avenir, la nouvelle hôtellerie, un projet intergénérationnel, mais qui concerne les personnes âgées dans l'intergénérationnel et qui va jusqu'à la fin de vie. Une formule de retraité-retraitant et de bien vivre sa fin de vie dans le Sangha Ashram et avec aussi bien un entraînement personnel, une possible formation ou, et surtout accompagnement, les deux. Et donc tout cela s'est développé et se continue à se développer et j'espère va trouver sa réalisation dans le Odhyana, qui est ce lieu intergénérationnel, la nouvelle hôtellerie, comme on la nomme aussi. Et puis, il y avait encore un volet dans la question qui était sur les prisons. C'est un sujet d'actualité. La France a une surpopulation carcérale, paraît-il. Alors, certains disent que c'est parce qu'on met les personnes trop facilement en taule, d'autres que c'est parce qu'il y a trop de délinquants. Et en fait, il faudrait... Bref. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison et qui souffrent en prison. Et qu'il est possible d'aider et qu'il est possible d'accompagner. Et c'est important d'aider et d'accompagner ceux qui sont le plus dans la détresse et dans la souffrance. C'est pas marrant d'être en prison. Vous me direz, c'est fait pour. C'est vrai, mais n'empêche que justement, c'est pour donner à réfléchir et si on marque le coup, c'est aussi et au mieux dans une perspective de d'éducation, voire de rééducation et d'insertion, de réinsertion. Et lorsque l'on est en prison, on est dans une sorte de retraite forcée. Donc, ça donne l'occasion de méditer. Donc, et de se poser des questions, de lire. Donc, il y a tout un accompagnement qui se fait dans les prisons, dans ce qu'on appelle des aumôniers. Alors, le terme est un peu malheureux, parce qu'il est très connoté, mais ou dans des accompagnants, on utilise aussi le terme, donc des personnes qui sont formées, qui sont d'anciens pratiquants et qui reçoivent d'ailleurs un agrément, c'est de l'Union bouddhiste de France maintenant qui reçoit les candidatures et on est agréé par le gouvernement comme visiteur de prison, ce qui permet d'aller sur la demande de prisonniers les rencontrer, les accueillir, répondre à leurs questions, les aider et éventuellement conduire des méditations ou amener en tout cas un soutien de cœur et d'esprit. Et il y a eu dans certaines prisons des expériences absolument extraordinaires qui montrent combien une telle action est une pratique une simple pratique de pleine présence peut avoir sur des prisonniers un effet extrêmement profond. Ces expériences ont eu lieu en Inde, en milieu carcéral indien. Si le français est un peu hard, enfin, l'indien, il est spartiate. Même avec des prisonniers de peine lourde, c'est des retraites. On a amené dans les prisons indiennes des retraites de 10 jours. C'est Goenka qui a fait cela. Alors ce sont des volontaires, hein, mais ils ont 10 jours de retraite. Alors, c'est un régime 8 heures d'assises par jour, sensation du corps, pas bouger, et précepte, pas parler, pas bouger, sensation du corps, 8 jours. Ça passe ou ça craque. Mais, et sans violence, c'est bien, juste sans distraction. Et cela a des effets positifs absolument incroyables, et ça a transformé beaucoup de ces personnes. On a vu à la fin de telles retraites les prisonniers tomber dans les bras de leurs matons, et réciproquement, des choses tout à fait inattendues dans un tel milieu. Et de voir aussi des prisons où se sont développés des centres de retraite, des centres de méditation organisés par les prisonniers. Et il y en a donc maintenant qui sont vraiment en retraite. Donc, c'est... alors, on n'en est pas là en France, malheureusement, mais cet exemple mérite d'être connu, d'être vu. Il y a une remarquable vidéo sur le sujet et il mériterait certainement de faire tache d'huile et de se diffuser. Isabelle, s'il vous plaît.
Peut-être de dire aussi quelqu'un du Sangha qui est en train d'obtenir, enfin, en passe d'obtenir justement l'agrément de accompagnant au aumônier bouddhiste pour à la prison de Chambéry.
Alors effectivement, il y a plusieurs personnes
du
Sangha qui sont impliquées dans des visiteurs de prison et qui l'ont déjà fait, et dont l'un d'eux, c'est...
J'ai un trou là, mais...
Moi aussi, son nom m'échappe dans l'instant, peu importe.
Alain, voilà.
Alain Auclair.
Qui est là, sauf qu'il n'est pas là ce soir.
Non, il n'est pas là. Il n'est pas là très souvent.
De temps en temps, il vient le soir.
De temps en temps, oui. En tout cas, bref, qui va être accrédité comme visiteur de prison et ici dans notre département. Donc, si jamais vous êtes en prison à Chambéry, à Eton, vous pouvez appeler un visiteur sympathique.
Tu ne me rends ni naissance ni namo brillance ni yumian de nous les vies
en la réa. Sarva Mangalam, bonne soirée.